bonjour et bonne écoute de votre reportage IJL. À plusieurs reprises, j'ai évoqué le plan Clean BC du gouvernement provincial dans des reportages précédents. Pour rappel, il est sorti quelques jours avant le début de la COP26 et le 7 novembre dernier, lors de cette rencontre des Nations Unies à Glasgow, le gouvernement de la Colombie-Britannique a reçu un prix pour ce programme. Dans le communiqué de presse officiel, retenons les propos de George Heyman, le ministre de l'Environnement et de la Transition sur le changement climatique. Nous travaillons dans tous les secteurs pour réduire la pollution nuisible au climat et créer de nouvelles opportunités pour les personnes et les entreprises dans l'économie propre. Et une autre phrase citée, c'est un honneur de recevoir le prix récompensant le succès de ce programme qui résulte d'une collaboration solide au service de l'innovation. Le prix est une autre indication que nous sommes sur la bonne voie à travers la nouvelle feuille de route Clean BC 2030. Clean BC qui en d'autres termes signifie Colombie-Britannique propre. Suite à cette récompense, j'ai obtenu des réactions et commentaires de deux expertes universitaire en environnement et changement climatique ici à Victoria. D'abord, auprès de Tamara Krochenko, spécialiste des politiques publiques comparées et en développement régional. Puis avec Heather Castelden, spécialiste des dimensions sociopolitiques des énergies renouvelables, des transitions énergétiques équitables, des relations entre la santé humaine et les changements climatiques et des perspectives autochtones sur la justice socio-écologique. Concernant la remise de cette récompense, voici la réaction de Tamara Krochenko.
I had a positive reaction because BC has been a policy innovator and an early adopter of certain environmental policies, notably a carbon tax in Canada and North America. And in this plan, they have set out clear pathways for decarbonization. And I'm glad to see policymakers that have done this work be acknowledged for having such a plan.
Sa réaction est positive et elle s'explique en disant que la politique de la Colombie-Britannique est innovante dans le domaine de l'environnement, particulièrement avec la taxe carbone. Elle est vraiment enthousiaste de voir un tel programme. Dans la discussion, je pointe le paradoxe faisant écho à un autre reportage récent à propos de la situation à Fairy Creek. Comment peut-on se réjouir de ce prix alors que sur le terrain, il reste beaucoup d'améliorations à apporter? Elle m'a confirmé qu'il reste des améliorations à faire pour créer une industrie forestière plus durable et en même temps, elle indique ceci.
British Columbia has these outstanding, rich, ecologically rich assets in these old forests. They're absolutely incredible and they do in fact have so much value without being cut, that there is such a potential for an ecotourism economy here, a much bigger one that already exists. It's been notably, you know, many experts describe this as one of the major growth industries for Vancouver Island in particular, and so absolutely that there's an urgency to protect that incredibly rich resource, and also for economic reasons.
La Colombie-Britannique a une exceptionnelle richesse écologique avec ses forêts ancestrales. Cette valeur représente un potentiel d'écotourisme bien plus important que ce qu'il est actuellement. Certains experts disent qu'il s'agit du potentiel économique majeur, particulièrement pour l'île de Vancouver. Donc il y a une urgence à protéger ces ressources incroyables et aussi pour des raisons économiques. En la relançant sur le contenu du programme Clean BC, elle admet qu'il y a des contradictions dans la politique du gouvernement, mais elle tient à reconnaître les efforts émis.
I'm particularly happy to see in the most recent Clean BC Roadmap to 2030 an emphasis on transportation because, in fact, when you look at GHG emissions in British Columbia, energy is the largest sectoral contributor, of which transportation is, in fact, the highest. So we have really a far way to go in decarbonizing transport. And I'm also very happy to see the emphasis not just on electric vehicles, but on sustainable transportation, on really seeing a modal shift to transit, to walking,
Tamara Krochenko est vraiment contente de voir sur cette feuille de route pour 2030 les projets concernant les transports car il y a beaucoup d'efforts à faire pour réduire l'empreinte carbone et elle est en même temps ravie aussi de voir les engagements sur les transports durables, que ce soit les véhicules électriques mais aussi les options à pied et en vélo. Passons à présent à l'analyse d'Heather Castelden dont la réaction est plus incisive. On l'écoute.
But I think the right thing for the BC government to have done, the minister, would have actually been to have declined the award on the grounds that we have to do much better than what's set out in the Clean BC proposal that has been put forward. Yes, there's some good innovation there, but awards are given because they suggest excellence, or in this case, that they're good enough. But I don't think we're doing enough. I think the reality of our climate crisis is not being taken seriously enough by governments of all stripes around the world.
Selon elle, la meilleure chose à faire de la part du gouvernement aurait été de refuser ce prix, car une récompense symbolise l'excellence. Or, sur le terrain, il reste tant à faire. Bien que sur ce plan Clean BC, il y a des propositions innovantes, elle pense que la réalité de la crise n'est pas suffisamment prise au sérieux par les gouvernements avec toutes les menaces écologiques à travers le monde. Elle poursuit en résumant sa pensée à propos du programme Clean BC.
If we continue to say it's okay to deforest, it's okay to extract oil and gas and coal, it's okay to do these things because we'll just plant trees somewhere. You know, the idea of the nature-based solutions. If we just do this other stuff somewhere else, it's okay to continue the extractive capitalism that we have going on in the world today. There's just too many contradictory messages that we're seeing coming from government.
Si on continue de dire c'est ok de poursuivre les activités de déforestation, d'extraction du pétrole et du gaz, parce que nous allons replanter des arbres quelque part, si nous compensons par ces actions c'est ok de poursuivre ce fonctionnement capitaliste qui est en place dans le monde, il y a tellement de messages contradictoires de la part du gouvernement. Voici ce qu'elle a dit. Puis elle développe sa pensée.
When you look at the root causes of the climate crisis that we're in. It has to do with capitalism, extractivism, globalization, and we can't forget colonialism and how we being Europeans have settled in this country and have started to just take and take and take and for profit.
La crise environnementale et le changement climatique est dû au capitalisme, aux extractions, à la globalisation, sans oublier la colonisation. Comment les Européens ont colonisé ce pays et commencé à prendre encore et toujours plus. C'est ça ce à quoi il faut penser, parce que c'était pour le profit et ça continue. Voici donc ce qu'elle m'a répondu. Et elle prend l'exemple de Ferry Creek dans notre discussion et voici ce qu'on peut entendre.
When there's only a small stand of old growth forest left, it's because of colonialism and capitalism that these forests have been extracted.
Les forêts ancestrales disparaissent à cause du colonialisme et du capitalisme. Aussi, durant cette entrevue, elle a fait référence à l'importance des communautés autochtones qui ont toujours pris soin de leur environnement et on le remarque facilement par la richesse de la biodiversité à Ferry Creek, comme elle le fait remarquer. Donc on devrait leur laisser plus de place pour nous apprendre à mener des actions concrètes en faveur du climat. C'est ce dont elle m'a fait part et à l'issue de la discussion, elle résume ceci ainsi.
L'importance de décoloniser. And by that I even mean land back. I think that's a narrative that I hear a lot about nowadays in the indigenous context that I work in, and how if we're actually going to engage in decolonization and respond to the climate crisis that we're in, there needs to be authentic land back, because in doing so you're going to see indigenous resurgence around taking care of the land.
L'importance de la décolonisation est centrale, ce qui signifie aussi pour elle de rendre les terres aux Premières Nations de façon authentique. Le processus fait partie des enjeux climatiques, me rappelle-t-elle. Pour conclure notre conversation, je lui ai demandé si elle avait de l'espoir pour le futur et elle m'a répondu qu'elle aimerait. Toutefois, cela est difficile dans le contexte actuel. Elle termine avec un mot sur la COP26. On l'écoute.
Where are the indigenous leaders in those negotiations? They're at side tables, you know, outside of the main events, and it's just a continuation of the way we in Canada have continued to dismiss the value that Indigenous knowledge and Indigenous peoples can bring to the table and to show their leadership.
Où sont les leaders autochtones durant ces négociations de cet événement si important? C'est encore dans la continuité de la gestion du Canada de mettre de côté et sous-estimer la valeur et les connaissances des peuples autochtones, de ne pas les inviter autour de la table et de respecter leur leadership. Voici sa phrase de conclusion. Comme vous avez pu l'entendre, cette récompense ne fait pas l'unanimité. Entre les discours, les prises de position et les faits, l'incertitude plane concernant le devenir de notre planète d'ici 2030. Et à Victoria, nous attendons d'avoir des retours d'un élu de la mairie de Victoria pour voir le contexte et les attentes de ce plan. C'était Angélique Germain pour Radio Victoria.